France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Et on poursuit cette matinée culture avec maintenant l'œuvre d'un grand, grand, grand photographe. William Klein est arlésien cet été aux rencontres de la photographie de Arles. Il expose son pas de deux avec le photographe japonais Aiko Ozoe. Cliché tokyoïte du danseur Kazuo Ono. Mais cet été, William Klein, l'américain qui vit à Paris, était aussi normand à travers l'exposition William Klein, figure du siècle qui lui était consacrée à l'abbatiale de Rouen. Et pour parler de cette exposition, mais surtout de cette figure de la photographie, Raphaël Stopin est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous étiez la commissaire de cette exposition qui vient juste de s'achever. Figure du siècle, voilà ce que vous avez choisi de retenir de lui, mais figure avec un S éventuel. William Klein, est-ce qu'il n'est pas d'abord le photographe du XXe siècle ?
C'est sans conteste en tout cas une des figures vraiment tutélaires de la photographie du XXe siècle, qui a apporté beaucoup de par le... ses partis pris qui étaient toujours extrêmement marqués et forts. C'est une œuvre qui a traversé le siècle autant par sa manière photographique, mais également pour son apport cinématographique. Les deux se recoupant de manière très, très intriquée.
Mais son premier parti pris, ça a été d'arrêter l'image nette, l'image parfaite, ça a été d'accepter ou même de choisir de parfois salir l'image.
Hein. Oui, il y avait cette manière d'embrasser l'accident, vraiment la rue dans toutes ses dimensions. On peut dire que c'était vraiment une des figures importantes de cette école de New York, même si évidemment c'est pas quelqu'un qu'on enferme dans des tendances ou dans des écoles. Il y avait après-guerre d'autres figures comme Léon Levenstein ou Louis Forer qui avaient cette manière, on va dire, d'aborder la rue dans une forme de confrontation. Mais chez Klein, ça allait encore plus loin. Son premier livre qu'il va réaliser, qui sera une somme et qui deviendra très vite un livre de référence pour l'histoire de la photographie, qui a un titre à rallonge qui s'appelle Life is good and good for you in New York, avec un sous-titre qui est très important, Trends, Witness, Revels. Et ce livre, en fait, ce titre est vraiment évocateur de sa manière. Il y a le mot trends dans la transe, et c'est ça qu'il ajoute.
Le mot vie aussi à l'intérieur. Voilà. C'est vraiment un photographe de la vie,
voilà,
telle qu'elle se présente.
Et c'est cette transe en fait qui est même proche de la Beat Generation, qui est tout à fait contemporaine, où on a cette espèce d'état semi-conscient dans lequel il se met pour photographier. Il est dans la rue au coude à coude avec le passant. On n'est vraiment pas dans une photographie qui va chercher à capter une forme d'anonymat qui serait imposée à l'individu pris dans cette foule et dans cette densité urbaine, puisque New York, c'est vraiment à l'époque la grande mégapole, mais au contraire une forme de recherche d'individualité. Chez lui, il y a quelque chose qui apparaît toujours de manière très flagrante dans ses images. C'est toujours un regard caméra, et c'est ce qui fait que ces images sont aussi...
Ce qui saisit des regards au vol. Hein.
Voilà, c'est ça.
William Klein, il prévient pas avant de photographier.
Non,
quand
mais
il veut shooter, il prend.
Voilà, mais en même temps, c'est pas des images prises à la dérobée du tout. Et c'est ça qui fait que ces images sont aujourd'hui toujours aussi chargées et émouvantes aussi. C'est qu'on le sent vraiment, lui, dans l'image, parce qu'il y a cette interaction toujours avec la personne qu'il photographie, et puis cet usage aussi de l'objectif 28 mm grand angle qui impliquait en fait à la fois la photographie de la personne au premier plan, mais aussi la façon dont il pouvait l'insérer dans son environnement et avoir toujours cette vue. Cette vue globale, en fait, de l'individu dans la ville, dans le tissu urbain et dans le tissu humain.
Alors, c'est ce premier livre de photos, ou ces premières photos, déplaisent beaucoup. Au début, elles dérangent, en tout cas, et ce premier livre choque, ce sera quand même, malgré tout, un succès.
Oui.
Est-ce que, à travers ce que vous nous racontez, on peut quand même dire que William Klein avait se fixé des contraintes? Est-ce qu'il avait, lui, une feuille de route, quelque part?
Alors, il a toujours travailler à la fois d'un côté pour donc effectivement des exercices de commande et en même temps ces commandes lui permettaient de mener des projets personnels avec la plus grande liberté. Donc ce premier grand projet photographique qu'il va mener à New York en 1954-55, c'est un projet effectivement dont il a pris l'initiative et qu'il mènera vraiment comme il l'entend. Mais il le financera grâce aux commandes qu'il fera dans le même moment pour le magazine Vogue. Et il y aura toujours ces constants allers-retours. Les exercices de commandes lui plairont aussi dans la mesure où il arrivera toujours à contourner les règles et les contraintes pour amener le genre en question, notamment la photographie de mode, par exemple, qui est un genre dans lequel il s'est très brillamment illustré. Mener ces genres vers des voies inusitées.
Alors la contrainte, justement, elle le stimule, déjà parce que ça lui fixe un cadre, mm-hmm. et puis aussi parce qu'après il peut passer à autre chose. Nous, on a rencontré William Klein chez lui, à Paris, avant mm-hmm. qu'il ne parte à Arles. Et on lui a posé cette question de la contrainte, et ça lui a tout de suite évoqué ses débuts, non pas ceux de la photographie, mais ceux de la peinture, quand il est allé à Milan, et qu'il y a rencontré des architectes et des peintres. Il a travaillé, lui, sur des peintures murales, et vous allez voir ce qu'il en dit.
J'ai jamais été dans une école, mais j'étais dans l'atelier de Fernand Léger, et lui, il nous voyait, les jeunes génies de 20 ans, 22 ans, 23 ans, et il a dit, je vous vois tous et vous espérez rencontrer des collectionneurs et des conservateurs de musées, et tout ça c'est de la connerie, il faut que vous travailler comme les peintres de Quattrocento, vous travaillez dans la cité et rencontrez des architectes et faites des travaux de peinture murale. C'est ça que je veux vous aider à concevoir.
La contrainte, mais aussi le travail dans la ville, hein, toujours cet environnement dans lequel William Klein s'inscrit, Raphaël Stoppin.
Il y a aussi, je reprends ces mots de travailler comme des peintres du Quattrocento. Il y a vraiment chez lui cette prise en compte du contexte et à la fois c'est quelque chose qu'il aura en tête dans ses travaux picturaux, même si sa carrière de peintre sera très courte. Mais il y a aussi cette idée vraiment qu'il garde en tête dans sa pratique photographique et la photographie, elle sera aussi bien adaptée au format du livre qu'au format de l'exposition. Ses premiers travaux abstraits, par exemple, donc photographiques, qui vont constituer comme ça la passerelle entre sa pratique de peintre et sa pratique photographique. Ils seront exécutés en 52. Immédiatement, en fait, en lien direct avec les travaux picturaux qu'il avait pu faire pour des architectes italiens, qui était donc un travail réellement appliqué. Ces travaux photographiques, par exemple, donc abstraits, qui étaient faits en laboratoire, qui empruntaient beaucoup aux avant-gardes des années 20-30, notamment les travaux de Laszlo Molinács, de Gyorgy Kepes, des travaux dont il était très familier. Il va donc les réaliser en laboratoire et il va avoir très très rapidement en fait l'idée de les transformer et de les transposer sur des panneaux de verre puisqu'il avait entendu parler d'une technique où on pouvait en fait imprimer l'image directement dans la masse du verre et donc il voulait comme ça faire des grands panneaux muraux. Des grandes baies, donc pour vous dire vraiment cette capacité qu'il avait comme ça à penser le médium au-delà de ses limites en fait. Et par exemple à l'abbatiale Saint-Ouen, l'exposition qu'on a menée, ces mêmes travaux abstraits, on les a imprimés sur des grands panneaux de textile qui faisaient écho aux vitraux de l'abbatiale. C'était un parti pris auquel il était lui-même très sensible.
Alors Raphaël Stoppin, William Klein, grande figure du siècle. William Klein capte la ville, il saisit aussi la vie. Mais William Klein est aussi, et ça c'est quelque chose de très important dans son parcours, un photographe engagé. Il a pris position sur beaucoup de débats de son temps, de son époque. On va l'écouter évoquer son rapport à la ville de New York et surtout à toutes les petites sociétés qu'il habite.
L'Amérique, les bons gens pensent que l'Amérique est un pays de liberté, généreux, et on pouvait tout faire, mais on ne sait pas que l'Amérique est quand même raciste, antisémite. Et moi, je n'ai pas souffert réellement, mais je savais ce que c'est, l'antisémitisme dans certains domaines. Et je savais un tout petit peu comment nous on traitait les Noirs, et cette mauvaise conscience, en effet, je l'avais. Mon père en avait des, ce qu'on appelle des bonnes noires africaines. Il était un juif orthodoxe et il avait toujours une femme qui travaillait pour nous, qui faisait toutes les choses qui étaient interdites à faire pour les juifs orthodoxes. Et donc, je pouvais m'identifier un tout petit peu à ce que vivaient les Noirs. Et quand j'ai eu l'occasion de faire des films, en effet, je pensais que il y avait affaire sur la façon dont l'Amérique était raciste et traitait les Noirs.
Alors, l'Amérique raciste, dans la voix de William Klein, Raphaël Stopin, cet engagement, il traverse mm-hmm. absolument toute son œuvre. Il racontait justement, quand je l'ai rencontré chez lui, avant qu'il ne parte à Arles, en juin dernier, William Klein, qu'il se tournait beaucoup vers les autres parce qu'il était travaillé par sa culpabilité de petit juif new-yorkais. C'est-à-dire qu'il a lui-même peut-être subi cette différence, ces discriminations, mm-hmm. ce qu'elle a toujours porté à regarder les autres. C'est ça?
Oui. Si effectivement vous parlez d'une photographie engagée, alors je pense qu'elle est pas. C'est pas une photographie militante explicitement engagée, mais par contre, elle l'est implicitement de par les classes sociales qu'il met en avant. C'était aussi ça, l'exposition, vous le rappeliez, s'appelait Figure du siècle à la Bastille Saint-Ouen. C'était aussi ça. L'idée de montrer à quel point il avait pu mettre au premier rang ces personnes et ces personnalités que l'on ne regardait pas à l'époque. C'était aussi pour ça que ce fameux livre de New York n'avait pas été publié, puisque ça présentait, selon les éditeurs américains, un visage de New York peu favorable, qui ressemblait, selon leur dire, à un bidonville. Mais oui, chez lui, il y a cet engagement qui s'est illustré vraiment de manière très très frontale dans son cinéma, notamment avec son premier documentaire qui était consacré à Mohamed Ali. Donc, Cassius Clay.
Et oui, parce qu'il s'est beaucoup rapproché aussi de toutes les figures du mouvement des droits civiques américains et des porte-voix et des Black Panthers, ouais. Exactement. On va l'écouter parler justement de ce film, Mohamed Ali, The Greatest, et de sa rencontre avec Mohamed Ali.
Mohamed Ali disait « I am the greatest », je suis le plus grand. J'ai rencontré, quand je suis allé faire le premier film, sur Mohamed Ali, j'en ai fait trois. Je suis allé pour le championnat de poids lourd en Amérique avec Mohamed Ali, qui d'abord a changé son nom le lendemain de sa victoire sur Liston en 1964. Ali a dit, mon nom désormais c'est Mohamed Ali. Alors là, les gens n'ont pas accepté, c'était mal reçu, et un black muslim, c'est pas la mode. C'est Malcolm X qui a fait un voyage en Afrique et il s'est rendu compte que les black muslims américains, c'était une caricature de la religion musulmane. Et Malcolm X est revenu de l'Amérique en voulant mettre les choses au point. Et c'était le guide spirituel de Mohamed Ali. Et c'est vraiment tragique qui n'a pas pu suivre Mohamed Ali, puisque Ali pouvait être un super américain. Il était connu dans le monde entier. J'ai vu que dans les petits villages africains, on connaissait Mohamed Ali. Il aurait pu être un ambassadeur de l'Amérique.
Voilà, William Klein, qu'on a rencontré chez lui récemment. Il était donc photographe, il était aussi cinéaste. Il a quand même fait des rencontres incroyables dans sa vie aussi. Est-ce qu'il était pour autant un cinéaste, un réalisateur situationniste pour vous ? Parce qu'il a fait des films assez barrés, hein, si on pense à son « Qui êtes-vous, Polly Magoo ?»
Oui, ouais, tout à fait. Alors encore une fois, je pense qu'il faut sûrement un peu se méfier des étiquettes à son égard, mais... Son œuvre cinématographique, elle est aussi importante, je pense, que son œuvre photographique. Son premier long métrage de fiction, notamment, dont vous parliez, Qui êtes-vous, Polly Magoo, qui est pour moi un monument de liberté. Il aborde ce genre, en fait, ce médium avec le même allant et c'est cette même absence de bienséance, on va dire, qu'il l'avait fait avec la photographie. Et Qui êtes-vous, Polly Magoo, bah c'est finalement l'incubation, on va dire, de ces deux expériences à la fois dans la photographie de mode et dans la télévision, puisqu'il avait travaillé notamment pour la télévision française, l'émission 5 colonnes à la une, au début des années 60. Et donc ce premier long métrage est de
fiction. Qui va sortir en 66. Hein.
Voilà, ouais. Il sort en 66, tourné en 65, qui va remporter un succès critique et public très important. Il sera vraiment... C'est un commentaire de la société qui est extrêmement visionnaire encore aujourd'hui. C'est vraiment troublant de contemporanéité.
Alors, William Klein a rencontré et croisé sur sa route les plus grands cinéastes français y compris, de Varda en passant par Godard, Lelouch et René. Ils étaient tous ses amis. Puis ils ont tous vécu aussi les années 60, les mouvements sociaux, les combats de cette période-là. Mmh. Ils les partageaient. Mais William Klein est quand même parfois retourné chez lui, aux États-Unis, à New York, avec un rapport étrange à cette culture, à cette ville et à ce pays qu'il avait pourtant adopté très jeune.
Je suis rentré à New York parce que j'ai commencé à faire de la photographie et je me suis dit je vais faire un portrait du New York et en pensant en effet que New York n'était pas ce que les New Yorkais pensent, c'est-à-dire le centre du monde et le modèle de comment on peut vivre. Mon père qui a eu beaucoup de mal à gagner sa vie et qui était un peu le mort comme voyageur, il pensait que New York, en effet, c'était le centre du monde. Il avait tort de le dénigrer, mais tant pis. Il n'avait pas raison.
Et voilà, on se quittera avec ce beau rire de William Klein. Raphaël Stoppin, merci beaucoup.
Merci.
Une image, une photographie que vous retiendrez de lui ou un mot ?
Je pense que c'est son regard enfantin qu'il a encore et qui est sûrement la source de tous ces beaux regards qu'on lui a renvoyés en retour.
Merci mille fois. Je rappelle que l'exposition Pas de deux entre William Klein et Aiko Osoe est à voir tout au long de l'été jusqu'au 28 août à Arles, à la chapelle Saint-Martin du Méjean.